Vous écoutez RTL. RTL Soir.
On refait le monde, Marc-Olivier Fogiel.
19h19 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre, du moins on l'espère. On refait le monde ce soir avec l'éditorialiste du Figaro, Yvan Rioufol. Bonsoir Yvan.
Bonsoir.
Le psychanalyste Gérard Miller, bonsoir Gérard.
Bonsoir.
Le directeur de la rédaction de Marianne, Joseph Massescaron, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis Alain Duhamel qui nous a rejoint. Rebonsoir Alain.
Rebonsoir.
Le John Wayne des Champs-Élysées, comme le décrit un journal anglais, François Hollande a donc rencontré Obama à la Maison Blanche. Nouvelle étape pour organiser une coalition internationale contre Daesh, une coalition qui semble beaucoup plus compliquée que jamais à réunir après qu'un avion russe a été abattu par les Turcs. La Russie très en colère contre la Turquie, contre l'OTAN. François Hollande appelle à éviter toute escalade. Alors cette crise diplomatique très intense ce soir entre Poutine et Erdogan notamment, peut-elle profiter à Daesh sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Préoccupés, les internautes, en effet, nous voilà avec deux égaux, peu soucieux de paix, atteints de réincarnation funeste. Poutine et l'Empire russe, Erdogan et l'Empire ottoman, soupire France. Plusieurs hypothèses circulent, Jean-Luc Mélenchon lâche sur Facebook que la Turquie joue vraiment un sale jeu, abattre des avions russes qui tapent nos ennemis. Quelle menace pour la Turquie ? Aucune, donc c'est une provoque dans le but de rompre la coalition en cours de formation. Augustin aussi voit un sabotage en l'air de la coalition en gestation. C'est officiel, Erdogan roule pour Daesh, écrit carrément François, mais ça énerve ceux qui pensent que la Turquie ne faisait que se défendre. Averti 10 fois en l'espace de 5 minutes, vous voulez quoi de plus ? La Turquie est dans son droit, c'est un état souverain, s'énerve Ali. Qui est présent dans cette zone ? Daesh ? Non. Alors qu'est-ce que Poutine foutait là-bas, pardon. Arrêtez maintenant, confirme Sem. Un simple membre de l'OTAN agressé, Nin pense qu'on peut également y voir une représaille après les attaques russes visant les convois pétroliers de Daesh à destination de la Turquie. Mais oui, la Turquie se venge d'avoir perdu plus de 700 camions citernes, en fait, accuse Marc. Erdogan n'a pas intérêt à abattre Daesh, il profite de la situation en popularité et en business avec ses proches. Dire que Merkel lui a promis l'Europe, regrette Peggy. D'autres, enfin, comme Jania, accusent la Turquie d'être un agent double qui rule pour les États-Unis et se retrouve otage de ce bras de fer avec la Russie.
Joseph Massescaron, cette coalition ce soir, elle semble avoir du plomb dans l'aile.
Oui, le plomb dans l'aile.
De l'avion.
L'avion.
J'hésitais à le faire jusqu'à là, mais dans Refait le Monde, on peut se détendre un petit peu.
Oui, puisque Alain Duhamel est là pour légitimer ce. Voilà. Bien sûr que ça montre l'ambiguïté de cette coalition, de cette grande coalition. C'est que. Nous lions des intérêts qui sont des intérêts extrêmement divergents entre les intérêts de la Russie et les intérêts de la Turquie. Ils sont totalement divergents. Même qu'il y ait que l'avion russe ait été abattu ou non, qu'il y ait sommation ou pas, je veux dire, c'est que ce soit une représailles, ce qui est d'ailleurs possible de l'armée turque après, en effet, que des camions citernes aient été abattus. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse parce que ça relancerait le débat auquel n'a toujours pas répondu la Commission européenne, même si des parlementaires européens, notamment des parlementaires français, ont interrogé la Commission Bruxelles sur ce pétrole qui venait de Daesh, sur ces 7 champs pétrolifères, notamment qui passent par la Syrie, qui ensuite après sont convoyés par la Syrie et qui partent de l'Irak de la Syrie pour finir en Turquie et être vendus à l'Union européenne, enfin, etc. Donc oui, bien sûr, il y a des intérêts. Et les intérêts, nous avons des intérêts divergents. Donc,
mais est-ce qu'on va réussir à mettre tout le monde autour de la table pour aller avoir un seul ennemi et un seul qui est Daesh ? Vous y croyez ?
Moi, je n'y crois pas parce que si, de toute façon, il y a une question qui est une question butoire. C'est pour que cette coalition soit une coalition efficace, il faudrait qu'on envoie des troupes au sol. Donc, quelles seront les troupes au sol ? Ce ne seront évidemment pas des soldats turcs, ce ne seront évidemment pas non plus des soldats saoudiens parce qu'ils se battraient contre des soldats de Daesh qui ont la même idéologie religieuse et politique qu'eux. Et évidemment, on se tourne vers Bachar el-Assad.
Et vous, Yvan Rioufol,
l'État islamique, c'est 30 000 soldats. Et là, on se demande pourquoi 30 000 soldats tiennent tête à une coalition. Mais on comprend très bien pourquoi. C'est parce que cette coalition n'en est pas une et qu'il n'y aura pas de coopération. Peut-être y aura-t-il une coordination. D'ailleurs, c'est le mot qu'a employé Manuel Valls tout à l'heure pour faire bien le distinguo entre les deux. Mais quand on s'aperçoit de cet acte de guerre qui a été commis par la Turquie contre ce qui était supposé être un allié, dans le fond, puisque si l'on comprend bien, la Russie s'était rapprochée de l'OTAN, en tout cas des États-Unis. Et voilà un pays de l'OTAN, la Turquie, qui rompt ce premier rapprochement en tirant un avion qui n'est pas son ennemi, puisque l'ennemi commun de tout cela, c'est prétendument Daesh.
Apparemment, il y avait quelques sommations quand même, 10 après le Pentagone quand même.
D'accord, mais enfin, c'est quand même, on ne tire pas sur des alliés, ce sont des alliés, ce n'était pas un ennemi. L'ennemi, c'est bien l'État islamique, ou alors on n'a rien compris à ce que l'on nous raconte. Et bien sûr qu'on n'a rien compris à ce que l'on nous raconte, car en fait, il y a une grande ambiguïté dans la politique qui est suivie par la Turquie depuis le début dans cette affaire, qui donne beaucoup de gages et beaucoup de facilité. D'abord à faire passer par ses frontières des combattants qui vont aller vers l'État islamique. Et plus généralement, il y a une grande ambiguïté de l'ensemble des pays musulmans de cette région, pas simplement de la Turquie, mais également de l'Arabie saoudite, du Qatar et d'autres, pour ne pas déployer leurs troupes au sol. Qu'est-ce que l'on attend pour voir ces pays-là mettre leurs troupes au sol? Et ce n'est pas naturellement à l'Occident de le faire. Or, ils ne le font pas. Donc l'État islamique, pour l'instant, se trouve face à une coalition, pas face à une coalition qui est démembrée, en effet.
De briques et de brocs, quoi.
Qui est faite de briques et de brocs, et surtout de brocs, c'est-à-dire que, de brodequins, c'est-à-dire que tout le monde fout le camp et ne veut pas aller, naturellement, au combat. Et singulièrement pas, ces pays musulmans qui disent ne pas se reconnaître dans cet État islamique. Mais s'ils ne se reconnaissent pas, qu'ils aillent le combattre.
François Hollande a du pain sur la planche, manifestement, Alain Duhamel.
Je crois qu'il ne faut pas enterrer cette coalition, d'abord parce qu'elle n'est pas encore née. Pour l'instant,
elle est peut-être morte-née.
Mais pour l'instant, elle n'existe pas, puisque l'objectif, c'est d'essayer de la constituer. Donc, elle n'existe pas. Il y a un certain nombre de nations qui sont engagées dans une lutte contre Daesh, qui souhaitent que d'autres nations s'engagent à leur côté et qui parlent de coordonner les efforts. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Ensuite, peut-être que ça n'existera jamais. C'est tout à fait possible qu'il y ait, ce qui est le cas aujourd'hui, théoriquement une trentaine de pays qui participent à la coalition, évidemment de façon extraordinairement inégale, mais qui participent. La question, et là je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est de savoir si ces puissances qui représentent quand même énormément d'argent, des équipements hyper sophistiqués, trouveront un moyen pour qu'il y ait le minimum de troupes au sol pour pouvoir terminer le travail qu'ils commencent avec les attaques aériennes. Et visiblement, personne n'a envie d'envoyer ses propres soldats.
Et ça peut passer que par là ?
C'est ce que disent tous les militaires, en tout cas. C'est qu'on n'arrive pas à extirper de territoires qu'ils occupent aujourd'hui, comme si c'était déjà leur proto-État. On n'arrive pas à les extirper s'il n'y a pas, pour les combattre, non seulement ce qui est le cas des rebelles qui existent, qui sont quelquefois très efficaces, comme les Kurdes, par exemple, mais s'il n'y a pas aussi des troupes régulières. Et la question est, qui propose d'envoyer ces troupes régulières? Et la réponse, c'est pour l'instant personne.
Personne, oui, c'est ça le point.
Obama et Hollande ont promis de soutenir ceux qui enverraient des troupes au sol.
En tout cas, ça ne serait pas eux.
Ce que je viens de dire exactement, c'est qui propose d'envoyer des troupes au sol?
Personne. Je vais dans votre sens, je ne vous contredis pas, je vais dans votre sens. J'ai illustré la grande
hypocrisie. J'avais eu peur de ne pas être assez clair.
Et c'est encore pire, parce que les seuls troupes au sol qui remportent des succès, notamment avec la prise de Sinjar, que sont les Kurdes, évidemment, bien sûr, sont bombardés par la Turquie.
On y revient dans un instant avec Gérard Miller.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir.
À 19h30, on refait le monde ce soir donc avec Joseph Massescaron, Yvan Ruffol, Alain Duhamel et vous, Gérard Miller, cette coalition donc mortenée.
Alors écoutez, pour détendre l'atmosphère, je vais me permettre juste quelques mots pour un petit cours de marxisme pour les nuls. Le président Mao, qui est rarement cité à RTL, et personne ne le regrette, pas même moi, disait que toute différence est une contradiction. Donc la question est de savoir si la contradiction devient antagonique ou pas. Au sein de la coalition, si c'est effectivement 30 États qui la composent, on peut multiplier les raisons de voir des différences. Et d'ailleurs, pas seulement entre les Russes et les Turcs, mais y compris, je ne sais pas, entre les Français et les Américains, par exemple. Il y a quand même énormément de différences, donc de contradictions. Moi, je fais le pari, et je pense que c'est ça que fait le président Hollande, le pari que ces différences, ces contradictions ne deviendront pas antagoniques. Et que pour un temps, on réussira effectivement à considérer qu'il y a un ennemi principal. Alors, je sais bien
qu'on considère que
c'est... Non, on considère que c'est souvent, on dit c'est la réelle politique, mais la politique est toujours la réelle politique. Elle consiste à un moment donné à désigner l'ennemi principal. Et donc je pense en effet que la Russie et la Turquie vont surmonter cette incroyable différence, cette incroyable contradiction, parce qu'actuellement, l'ennemi principal, même si la Turquie, je suis absolument d'accord, a joué un double jeu et continuera peut-être même à le jouer.
Je pense que néanmoins,
elle se trouve plutôt contrainte de faire en sorte que cette contradiction ne soit pas antagonique. Moi, en tout cas, je fais ce pari.
L'ennemi principal, il est double. Nous avons eu Al-Qaïda. Après Al-Qaïda, nous avons eu Daesh. Ce sera quoi le prochain? L'ennemi principal, c'est l'Arabie Saoudite. C'est lui aussi l'ennemi principal. C'est également l'ennemi principal.
Pour ça, il faudrait le désigner.
Mais bien sûr, tant qu'on n'aura pas désigné l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas ?
Mais vous avez entendu François Hollande
le prince Turquie, qui était chef des services de renseignement, jusqu'en 2001 et qui employait Ben Laden pour organiser les Afghans dans les camps de Bosnie, etc., etc. La liste, elle est longue.
Et pourquoi Alain Duhamel, on ne désigne pas l'Arabie Saoudite comme un ennemi ?
Ouais. D'abord, il y a la dimension française, mais il y a la dimension américaine qui ne vous a pas échappé. Mm-hmm. Bon, moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait un ennemi. En ce moment, c'est Daesh. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est lui, après d'autres et avant d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est que actuellement, parce que ça, ce sont des faits, Daesh est non seulement une menace, mais une agression à la fois pour l'ensemble du Moyen-Orient et en plus en Europe. Donc il faut faire ce qu'on peut. Quand il faut le faire parce qu'il n'y a pas le moyen d'esquiver le combat, et ben même si dans la phase actuelle, personne ne dit qu'il faut envoyer des troupes au sol, il finira bien par se passer quelque chose parce qu'il ne peut pas y avoir d'un côté des agressions aussi spectaculaires et terribles que celles-là, et elles sont terribles.
Non, mais quand vous dites finira bien, mais quand et qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive pour qu'on passe à cette offensive-là ?
Il faudra qu'à un moment, il y ait des troupes au sol envoyées par quelqu'un.
Oui, ça d'accord.
C'est quand même pas moi qui vais tirer mon chapeau, d'ailleurs je ne porte pas la réponse, puisque pour l'instant les chefs d'État ne l'ont pas.
Il faudrait quoi ? D'autres attentats ?
Il va y avoir des coups qui vont lui être portés. Bon, on s'apercevra, parce que c'est inévitable, que ces coups sont insuffisants, et comme la situation continuera à être aussi dangereuse pour tout le monde, peut-être plus dangereuse encore qu'elle ne l'est maintenant, eh ben, il faudra bien en arriver à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire pour l'instant.
Oui, d'ailleurs,
il
faudra intimer à l'Arabie Saoudite, puisqu'on parlait d'elle, ou au Qatar, d'effectivement mettre des troupes au sol. Parce que
s'ils ont des troupes au sol capables de battre Daesh.
Ben oui, naturellement. Enfin, j'imagine qu'ils disent non. Pour l'instant, vous ne pouvez pas laisser les Kurdes et les femmes kurdes, pour l'instant, qui sont seules au front. Mais moi, ce que je vous suggère quand même de remarquer très rapidement, c'est qu'il y a même une discordance sur la manière de désigner l'ennemi. D'abord, l'ennemi, il était double. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était Daesh, l'État islamique, et c'était Bachar el-Assad. Maintenant, ça l'est un peu moins Bachar el-Assad, mais ça le reste quand même chez Obama et chez Hollande. Donc déjà, ce n'est pas aussi clair que cela. Et c'est, à ma connaissance, il n'y a que Hollande qui est dit, qui a employé le mot de guerre. Le mot de guerre ne veut pas être employé ni par Obama, ni par les Anglais, ni par les Allemands.
Ni par ceux qui ne veulent pas mettre de troupes au sol.
Mais si vous êtes tout seul à faire la guerre, vous la perdez.
Gérard,
je veux juste répondre à Massescaro que ce qu'on appelle un ennemi principal suppose qu'il y ait d'autres ennemis. Actuellement, l'ennemi principal, c'est comme ça, c'est Daesh. Mmh. Ça ne suppose pas du tout qu'on jette pour autant un blanc-seing à l'Arabie Saoudite, dont je suis entièrement d'accord qu'il faudra s'occuper au moment venu, ni à la Syrie. Mais c'est ça le principe de la réelle politique. C'est qu'il y ait des ennemis principaux et que donc, à un moment donné, des ennemis aussi épouvantables qu'ils soient deviennent secondaires un temps.
Ce que je soulignais, c'est que de toute façon, tant que l'on n'aura pas réglé la situation de l'Arabie Saoudite et de cette hérésie islamiste que produit l'Arabie Saoudite, eh bien, nous aurons de nouveau Daesh et nous aurons de nouveau Al-Qaïda.
Si on peut compliquer un petit peu le problème, c'est que vous avez aussi maintenant l'Iran qui se met dans cette coalition soi-disant occidentale qui elle-même est un terreau de l'islamisme.
Et un ennemi de l'Arabie Saoudite.
C'est bien pour ça qu'elle est avec nous.
On va parler de la campagne des régionales dans tout ça, dans un instant. Je vous rappelle que c'est dans 15 jours.
Et c'est très pacifique.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchier.
On refait le monde à 19h38 ce soir avec Alain Duhamel, Yvan Rioufol, Joseph Massescaron et Gérard Miller. Donc RTL vous révélait ce soir notre sondage TNS Sofres à la question « L'impact des attentats a-t-il changé votre vote ?» Pour les régionales, les Français répondent non à 58%. Pour 35% d'entre eux, ils ont même confirmé leur choix. Seuls 7% ont changé d'avis. Et pour vous, quel impact vont avoir les attaques terroristes sur les régionales? Et vous avez vu, quand on fait la photo, le FN est quand même loin devant le PS avec les Républicains qui est au milieu sur les réseaux sociaux, Benoît.
On constate déjà que certains auraient aimé ne pas voter. Pas cohérent de maintenir cette élection régionale qui intéresse peu de Français, surtout en ces temps d'appel à l'unité nationale, bougonne Serge. Dans le contexte actuel, ces élections sont biaisées, confisquées, c'est le contraire de la démocratie, renchérit Daniel. Les attentats ne perturbent rien, les gens sérieux ont fait leur choix depuis longtemps, répond le Glaude. Olivier en est convaincu, lui, que cette inquiétude liée aux attentats renforce le FN. Ouais, peut-être que certains se rendent compte du laxisme de l'État depuis tant d'années, grince Steph. Quel rapport ? La sécurité intérieure est-elle une compétence de la région ? Sérieux, qui peut avaler leurs conneries ? S'énerve Jean-Marc. Quand même, note Bruno, le lever de drapeau ferait gagner 5 points au PS, alors que Hollande applique des mesures prônées par la droite ? Bizarre. La remontée de Hollande après les attentats de Charlie et autres n'avait pas duré longtemps, prévient Albert. Les électeurs républicains ou UDI peuvent finalement se transférer massivement vers le FN. On verra. Je pense aussi qu'il est trop tôt pour dire si ces événements profiteront à Hollande, à vous Jean-Louis. Par contre, les réactions de certains députés de Les Républicains à l'Assemblée nationale va sans doute jouer un rôle en leur défaveur, conclut-il.
Gérard Miller, peu d'impact finalement.
Oui, on croise les doigts pour que ce soit le cas. Et en tout cas, on croise les doigts. En tout cas, je croise les doigts. Je ne vais pas parler pour les autres chroniqueurs.
Non, parce qu'on n'a pas voté.
Je croise les doigts pour que les gens ne se disent pas qu'il faut tenter le FN dans des conditions de ce genre. C'est-à-dire que c'est vrai que on aurait.
Je rappelle que le FN fait toujours la course en tête.
Il fait la course en tête, mais il la faisait avant. Donc j'espère que les gens se diront quand même qu'il y a un petit peu plus de légitimité, je dirais, du côté de la droite qu'on appelle encore républicaine et du côté du Parti socialiste. Moi, c'est ce que je me suis dit. Est-ce que c'est le moment pour un certain nombre de gens de plonger vraiment dans l'aventure ? Parce que le FN, quoi qu'on dise, et même s'il caracole en tête, c'est l'aventure. Et une aventure dont, personnellement, je pense qu'elle serait désastreuse.
Le fait, Joseph Massescaron, qu'il n'y ait pas eu cet impact-là, pour vous, c'est une surprise ?
Faut pas trop théoriser non plus.
Hein. Ah bah oui, mais si on théorise pas, alors qu'est-ce qu'on fait ?
Non, mais c'est un élément quand même. Je veux dire, c'est intéressant, c'est indicatif. Mais enfin, c'est pas.
C'est un l'instant T. On va peut-être que demain nous serons totalement démentis, mais on refera un autre débat.
Pas totalement, mais enfin, faut faire attention quand même.
Faisons
avec
attention.
Les sondages régionaux.
Hein. Faisons attention. Bien quand Duhamel parle à ma place, parce que de toute façon, je me sens légitimé.
Non, non, là, il parle à la mienne. Il parle à la mienne, Joseph. Il me recadre. Il ne vous recadre pas encore. Il vous recadre pas après. En préalable, il vous recadre à posteriori.
Il va monter tout à l'heure. Ce qui est, c'est pas très étonnant qu'il y ait une réaction aussi faible, parce que je crois aussi que, je pense que l'étonnement et la stupeur de l'ensemble des Français sur, avec l'horreur de ce qui s'est passé est encore aujourd'hui très fort. C'est-à-dire que je ne pense pas, là, au moment où je parle, que nous ayons véritablement digéré, entre guillemets, si tant est qu'on puisse le digérer, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé n'est pas un accident, c'est pas un accident d'avion, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de réel, de quelque chose de profond.
Bah, j'allais vous dire justement,
non, parce que ce type d'événement met du temps à remonter. C'est-à-dire que c'est un événement tellurique qui s'est passé et il met du temps à remonter à la surface. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas étonné que, pour le moment, je dis bien que pour le moment, les conséquences, on ne les voit pas encore.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, je respecte tout à fait ce sondage qui dit sûrement une vérité.
Moi aussi, je le respecte.
Mais je pense que tous les éléments sont là pour que s'exprime lors de ces régionales un sentiment de colère d'une partie de la population. De colère d'abord de voir qu'elle s'est fait quand même duper pendant des dizaines et des dizaines d'années, car ce sont des mensonges d'État qui s'effondrent aujourd'hui. On nous avait dit l'intégration réussie, la jeunesse, alors qu'on voit une jeunesse fracturée, on nous avait dit la diversité délicieuse, etc., l'islam pacifique. Bon, on voit que tout ça était au moins sujet à caution, pour le moins. On voit également, d'ailleurs, que dans la politique de François Hollande lui-même rend hommage au Front National, puisqu'il reprend 4 ou 5 mesures qui avaient été proposées par le Front National, ce qui est une manière de dire qu'il ne s'était pas trompé.
Ça, c'est pas difficile. Le Front National prend ses mesures partout.
Oui, non, mais
comme il prend des mesures partout, tôt ou tard,
enfin, c'est la première fois.
Yvan, vous allez prendre des mesures du Front National, puisqu'il pique.
C'est la première fois qu'un chef de l'État socialiste...
C'est une pire électorale, le Front National. Il fait ses œufs.
C'est la première fois qu'un chef d'État socialiste...
Donc, évidemment, ça ne pose aucun problème. Tôt ou tard, on le trouve.
Ça t'embête si je finis ? C'est la première fois qu'un chef d'État socialiste cautionne 5 ou 6 mesures qui avaient été proposées.
Sécuritaire, dans l'histoire de la gauche.
Sécuritaire, non, mais ici. Bon. Et ne prends pas ça, si tu veux, prends ça comme étant
vous voyez à la légère. Du micro d'or,
enfin. Oui, pardon. Et je pense que moi, ce sont des choix qui risquent également, en effet, de faire en sorte que l'électorat comprenne que le Front National, en l'occurrence, avait été de ceux qui n'étaient pas le seul, qui avaient dit qu'il y avait quand même quelque chose qui ne fonctionnait pas dans cette société, qui ne voulait pas entendre parler de sécurité et du reste. Je parle le retour aux frontières, etc., des polices armées, des déchéances de la nationalité. Et tout ceci me fait dire que, naturellement, il va y avoir un vent porteur qui risque non seulement de mettre à la marge
les républicains, mais de porter très largement le Front National. Je ne dis pas ça pour m'en réjouir. Je dis que ceci serait simplement. Mais attends, je finis juste mes phrases, si ça vous ennuie pas. Puis moi, je vous laisse parler.
Je vous laisse également parler.
Et que ceci, tout simplement, mettra en scène ce qui a été cette grande trahison des élites, cette grande trahison des clercs depuis 40 ans, qui ont voulu nous faire croire une société qui n'existe pas.
Moi, pour moi, il y a une partie de la droite aujourd'hui qui a parié sur l'échec de la droite, non seulement régionale, mais l'échec de la droite à la présidentielle. Cette partie de la droite qui estime que la droite vient d'être battue à la suite de concerts tragiques ou du bal tragique au Bataclan, hein, c'est parce que c'est comme ça qu'ils ironisent, sont d'un cynisme total et ils pensent que ainsi la droite républicaine est pliée. C'est en quoi d'ailleurs, ils font le jeu très très vite, et qu'ainsi on va vers une possibilité d'un second tour, Marine Le Pen, François Hollande. Voilà.
Moi je constate deux choses. La première, c'est que au mois de mars, on a considéré que ça arrivait, que les élections arrivaient trop tard pour que l'effet Charlie existe encore. Et maintenant, on considère que les élections régionales arrivent trop tôt pour que l'effet Bataclan existe aussi sur un plan électoral. Bon, la deuxième chose, c'est que je suis assez persuadé que effectivement, il y aura un effet qui sera vraiment marginal, infinitésimal. On peut raffiner sur tel ou tel point, mais enfin, pas essentiel. En revanche, la question que je me pose, c'est de savoir si plus durablement, ça aura ou ça n'aura pas un effet sur la reconstruction, non pas de l'électorat de la gauche partisane, mais de l'électorat de la gauche présidentielle. Et ça, c'est une hypothèse dont je ne dis pas du tout qu'elle se réalisera, mais qui a des chances d'être prise en considération dans la mesure où la suite des attentats, cette fois-ci, est une longue bataille qui ne fait que commencer.
Je me permettrai juste de dire que je ne laisserai pas dire que cette barbarie sans nom légitime le moins du monde les thèses du FN. C'est important. Au contraire, au moment où précisément Daesh veut nous opposer à l'immense majorité pacifique de nos concitoyens musulmans, c'est très important de dire que ce n'est pas cette barbarie-là qui légitime la volonté qu'a le FN de nous séparer, de séparer les Français en deux camps antagoniques. C'est surtout pas le moment de dire ça.
Allez, dans un instant, bientôt une habilitation pour les imams en France. On en débat dans un instant.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir.
On refait le monde à 19h49 avec Alain Duhamel, Yvan Rioufol, Joseph Massescaron et Gérard Miller. Les 10 commandements de l'islam de France, le Conseil français du culte musulman va délivrer un certificat aux imams avec vérification des connaissances théologiques et de l'histoire de France, adhésion aux valeurs républicaines. Ils devront également signer une charte pour un islam tolérant et ouvert. On ne connaît pas encore les détails de ce texte. Alors que faut-il mettre d'ailleurs dans cette charte pour que ça ait un sens, Alain Duhamel ?
Bah écoutez, s'il s'agit de vérifier que sur un plan religieux, ils aient un minimum de connaissances et pas simplement des slogans totalement polémiques, comme certains, s'il s'agit de vérifier qu'ils ont une connaissance de la société française, de ce que sont nos lois, de ce qu'est la Constitution, je ne dis pas techniquement, mais de ce qu'elle est comme inspiration, comme règle du jeu de la société, ben, ça ne fera pas de mal. Maintenant,
qu'il prêche en français,
qu'il prêche en français, ça me paraîtrait normal aussi. S'ils veulent,
il y a des messes en latin.
S'ils veulent réciter des prières en arabe, comme on récite des prières en latin, ou comme on récite des prières en hébreu, etc. Mais c'est le prêche, et c'est le prêche qui s'adresse au grand nombre, c'est le prêche qui peut avoir de l'influence. Maintenant, c'est évidemment un des éléments parmi beaucoup d'autres. Parce que quelle est la part d'imams autoproclamés, quelle est la part des réseaux sociaux, quelle est la part simplement du copain qui vous entraîne, quelle est la part du frère qui tourne mal, etc. Il y a énormément de facteurs, mais je pense qu'en tout cas, ça ne peut faire que du bien, même si ça ne sera pas la solution terminale.
C'est une plaisanterie. Franchement, c'est une plaisanterie. C'est une sorte de string religieux destiné à amuser la galerie. C'est une plaisanterie. L'idée qu'on puisse créer un imam halal, quand on connaît l'islam, la structure de l'islam, c'est une plaisanterie totale.
Mais il faut bien
alors,
essayer
quelque
chose.
Alors c'est vrai que ça va pointer. C'est vrai que attends, je vais vous faire une proposition. C'est vrai que on peut pointer le fait que relever de ceux qui sont fondamentalistes. Évidemment, tout le monde passe parce que pense à l'imam de Brest, qui a une notoriété, qui a son quart d'heure aujourd'hui de célébrité. Mais au-delà de l'imam de Brest, défendu d'ailleurs par les autorités, toujours parlé. D'ailleurs, c'est le même qui disait, c'est quand même important, avant le massacre du Bataclan, qui disait que la musique écoutez de la musique, faisait de vous des porcs.
Aux enfants, il leur disait.
Aux enfants. Donc ça, c'est pas, ce ne sont pas des paroles neutres. Ce sont évidemment des paroles qui résonnent extrêmement tragiquement aujourd'hui. Mais
donc,
c'est très franchement.
Les éviter,
mais c'est
même.
une plaisanterie. Les éviter. Oui, mais comme rien n'est fait. C'est-à-dire là, franchement, aujourd'hui, rien n'est fait parce que rien ne peut être fait. Parce que je ne vais pas vous apprendre ça. Je ne vais pas vous apprendre ça à l'UML. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous ne savez très bien qu'il n'y a pas d'autorité centrale, qu'il n'y a pas d'autorité ecclésiale dans l'islam et que ça ne fonctionne pas. Alors évidemment, ça va permettre de pointer les fondamentalistes. Tous les fondamentalistes,
bien sûr qu'il n'y a pas de hiérarchie ecclésiale, mais contrairement aux chiites. Mais en revanche, que chaque temple, chaque mosquée puisse faire l'objet d'une écoute, et en particulier qu'on vérifie que les prêches sont en français, deviennent en français, ça n'est pas du tout irréaliste, c'est possible.
Ça ne changera rien, je suis obligé. Mais parce que bon, d'abord, tous les fondamentalistes...
Et donc votre proposition,
tous les fondamentalistes ne sont pas des terroristes, même si tous les terroristes sont des fondamentalistes.
Oui.
Mais, d'autre côté, la proposition, depuis le début... Aujourd'hui, le recrutement, ça se fait quand quoi ? Ça se fait par ce qu'on appelle des imams de rue. Ça se fait pas dans les mosquées, il faut pas raconter d'histoire. Ça se fait d'abord par le net, avec toutes les mesures, avec toutes les associations néo-salafistes. Et pour aller vite et rapidement, nous avons depuis le début, Jean-Pierre Chevènement responsable, la gauche est responsable, Nicolas Sarkozy responsable, ministre de l'Intérieur responsable, sur la question de l'organisation, puisque vous parlez du CCN, nous avons abdiqué sur un point qui est un point essentiel, qui est le point de l'apostasie. Tant que l'on n'admettra pas le principe d'apostasie dans la religion musulmane telle qu'elle est pratiquée en France, ça ne servira à rien de vouloir changer et de prétendre qu'il peut y avoir un islam.
Gérard et Yvan, ne confondons
peut-être pas tout. Ceux qui veulent prier Dieu le prieront comme ils l'entendent. Moi, je ne vois absolument pas quel regard j'aurai là-dessus. Par contre, à partir du moment où il y a une prise de parole publique, que vous vous adressez à 2, 10, 100 ou 1000 personnes et plus, à partir de ce moment-là, ça concerne l'ensemble de la société. Et donc, que ça se passe dans une mosquée, une église, une synagogue ou à la radio, je considère parfaitement légitime que l'État, la police, qui vous voulez, y mette le nez. Or, jusqu'à présent, ça n'était pas le cas. On considérait qu'il y avait des lieux, parce que c'était des lieux dits saints, parce que c'était des lieux de prière, que du coup, ce qui fonctionnait dans toute la société s'arrêtait à la porte de ces lieux-là. Moi, qu'on ait l'idée qu'effectivement, il n'y ait plus de lieux saints, non pas au sens où les gens peuvent prier, mais au sens où il y aurait des paroles qui pourraient être dites sous prétexte que ce sont des hommes de religion, je trouve ça absolument formidable. Je trouve effectivement, alors écoutez,
ça ne change rien.
Je veux dire que c'est impossible.
Il reste une minute pour Yvan.
Impossible.
Ça ne change rien.
Bon, c'est impossible de te dire.
Moi, je pense qu'il faut se réjouir, tout au contraire de ce que dit Joseph Mastescaron, il faut se réjouir du fait que les autorités musulmanes aujourd'hui cessent ce discours que l'on a entendu depuis des années de dire que l'islam n'a rien à voir avec les attentats, avec l'intégrisme, avec ceci ou cela. L'islam a à voir, c'est un préalable. Et on se rend compte, si j'ai bien compris, que les autorités musulmanes commencent à admettre qu'en effet, il y a un ménage à faire chez eux. Et donc, ce ménage ne peut être fait que par des autorités musulmanes, des intellectuels musulmans. Et donc, je me réjouis de voir qu'une organisation musulmane commence à s'intéresser au fait qu'elle devrait mieux former ses imams, il serait peut-être temps. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut naturellement que les intellectuels musulmans, dont par exemple Abdennour Bidar nous dit qu'il y a un cancer de l'islam, ce cancer de l'islam, c'est naturellement l'islamisme radical, l'islamisme qui tue des gens dans la rue, et que ce cancer doit être analysé par des intellectuels, mais ce sont des musulmans qui doivent le faire, donc il faut encourager à aller beaucoup plus loin, bien sûr, et je pense que l'État lui-même, c'est que l'État lui-même, oui, ça sert quand même, ce sont aux musulmans de se prendre en charge aujourd'hui, et je pense que l'État lui-même, je suis court, je dois faire vite, et je crois que l'État lui-même pourrait également les aider en reprenant ce qui avait été fait en 1850 par Napoléon pour la communauté juive de l'époque avec le Grand Sanhédrin, c'est-à-dire de soumettre, en l'occurrence c'était 12 questions qui avaient été soumises aux rabbins, afin que les rabbins se plient, et d'ailleurs ils l'ont fait avec quel succès qu'ils se plient à la République et à ses règles. Et il faudrait qu'il y ait un engagement de ces autorités musulmanes vis-à-vis de la République, afin qu'elles se plient à ses règles et qu'elles acceptent notamment de cesser le djihad.
Et qu'on cesse d'accepter que les mosquées soient financées de l'étranger et que viennent certains imams de l'étranger qui n'ont même pas la connaissance de la langue française et moins loin encore de ces lois.
Allez, merci à tous les quatre. Merci à Alain Duhamel, à Yvan Rioufol, à Joseph Massescaron et à Gérard Miller. Dans un instant, le flash de 20h avec les dernières infos données par le procureur de Paris sur ces attentats du 13 novembre et donc sur ces attentats évités à la défense, puisque vous avez entendu Kabal Aoud comptait donc faire sauter la défense le 18 ou le 19 novembre. Et ensuite, Thomas et Sidonie, à tout de suite.